Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver, épisode suivant c'est votre rendez-vous. Vous avez l'habitude maintenant sur Tech & Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries. Et vous l'avez vu, hein, pour ceux qui nous regardent en vidéo, l'esprit de Noël s'est emparé du plateau. J'ai sorti mon plus beau pull moche à nouveau. On a mis des guirlandes, le Père Noël est sur le plateau. Un point pour celui qui le trouve. Et on va évidemment parler de Noël forcément dans les séries. Pour ça, deux invités sont avec moi. Une avec un pull de Noël, une avec un pull qu'on va dire un peu de Noël.
Presque de Noël.
Celle qui a un pull presque de Noël, c'est Margot Barallon. Salut Margot.
Salut.
Margot, journaliste indépendante, spécialiste des séries. Évidemment, on peut te lire dans le magazine 3 couleurs. Les séries, les téléfilms de Noël, ça te parle ?
Ça me parle. Pas toujours en bien, mais ça me parle, oui.
C'est normal, il n'y a pas que du bon dans tout ça. Et celle qui a mis son plus beau pull de Noël, il est tout rouge, il y a des petits rennes dessus à ce que je vois.
Ça fait.
C'est un classique, c'est Marion Lecoq. Salut Marion.
Salut.
Marion, journaliste de série évidemment aussi, rédactrice en chef du site Seriously. Toi, les téléfilms de Noël, les épisodes de Noël, tu en avales chaque année ?
J'en consomme pas mal, oui.
Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir parler de tout ça, préparer vos plus beaux chocolats chauds pour nous écouter. C'est parti pour notre débat de la semaine sur Noël. Débat qui tient en une question qui me taraude, moi qui aime tant Noël, comme vous pouvez le voir sur ce plateau. Où sont passés les épisodes de Noël dans les séries à l'heure des plateformes de streaming, cette belle tradition de la télé américaine, notamment, hein, télé anglaise aussi, et un petit peu en France maintenant. Bah, cette vieille tradition est un peu mise de côté, c'est moins la norme. Ça ne veut pas dire que les plateformes de streaming ne s'emparent pas de Noël. Hein. Bien au contraire, il y a un marché très juteux derrière, donc elles sont là, vous rassurez-vous. Mais les contenus, bah, ils changent quand même un petit peu avant d'y venir. Margot, on va quand même rappeler un peu cette tradition des épisodes de Noël, les Christmas Specials, comme on dit aux États-Unis. Ça vient d'où ? Ça date de quand ?
Mais ça date, c'est presque aussi vieux que la télévision, en fait. Les toutes premières sitcoms américaines, si on prend I Love Lucy, par exemple, il y avait déjà un épisode de Noël dedans. Ça vient, en fait, du mode de diffusion des chaînes de télévision qui diffusaient des séries sur toute une saison. Donc, on commence à la rentrée, on finit à peu près en mai ou juin et on a généralement une pause pendant les fêtes. Et là, on sort son Christmas Special, donc son épisode de Noël qui permet à tout le monde de retrouver l'ambiance qu'on a dans la vraie vie et qui peut être soit vraiment une continuité, soit généralement, au départ, c'est un peu des épisodes parenthèses dans la saison. Bon, avec une sitcom, de toute façon, tous les épisodes sont un peu anthologiques, mais voilà, c'est souvent des petites parenthèses enchantées et féeriques pour rappeler la belle époque de Noël.
Il y a cette idée d'identification, peut-être aussi on aime bien finalement regarder des gens comme nous, c'est le principe des sitcoms d'ailleurs, c'est des gens qu'on pourrait être, des amis qu'on pourrait avoir, une famille qui pourrait être la nôtre, et Noël, bah forcément, dans les foyers qui fêtent Noël, il y a des décos partout, et bah pourquoi pas dans la télé finalement, Marion, c'est peut-être ça qui nous plaît dans ces épisodes de Noël, quoi.
Bah, je pense que c'est ça qui nous plaît, mais d'ailleurs on le voit au fil des saisons, les saisons elles sont construites, elles suivent tous les événements de l'année et on s'y retrouve en fait, comme tu dis, on a l'impression de regarder un peu nos amis, nos voisins et ça nous fait sentir, on fait partie en fait de leur univers pendant un moment parce qu'on fête Noël, ils fêtent Noël.
Oui c'est vrai que Noël en plus tu dis, la télé américaine c'est très marqué aux États-Unis sur les différentes fêtes, il y a aussi des épisodes Thanksgiving, des épisodes Halloween, des épisodes sur la neige comme d'habitude en hiver, etc. Et les fêtes au printemps. Tout ça date donc d'assez longtemps. Il y en a encore aujourd'hui, c'est donc que cette tradition, elle intéresse encore. Il y a eu un âge d'or quand même dans les années 90-2000, la grande année des networks, les grandes années des networks. Hein. On pense évidemment à Friends, qui était la grande représentante à ce moment-là. Donc ces longues séries à cheval sur une année, non pas calendaire, mais une année de télé. Tout ça a été fait un peu partout. On a parlé de Friends, des sitcoms, mais il y a eu les séries policières aussi. C'est une figure imposée aujourd'hui pour une série, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais pendant longtemps, ça a été obligatoire de faire quelque part ces épisodes de Noël.
Quasi obligatoire. Et en fait, il y a quand même un enjeu économique fort derrière. Depuis quasi le début, les épisodes de Noël sont ceux qui rassemblent plus de téléspectateurs et téléspectatrices. Donc vraiment, les producteurs savent qu'ils ont tout intérêt à intégrer cet épisode de Noël. Ça a commencé vraiment à monter dès les années 70-80 pour effectivement atteindre cette sorte de climax dans les années 90-2000. Mais c'est un passage obligé dans le sens où on a bien vu que ça fonctionnait et ce qui fonctionne devient vite un passage obligé en télévision.
Ça l'a été pendant très longtemps. Ça, c'est la télé, on va dire, traditionnelle telle qu'on l'a connue pendant des décennies. Aujourd'hui, cette télé traditionnelle, elle est bousculée quand même par ces plateformes de streaming qui viennent changer le rythme de diffusion, qui viennent modifier la longueur des séries. Il n'y a plus, par exemple, sur Netflix, ces séries qui commencent en septembre et qui se terminent en mai ou en juin. Même pour les plateformes type Prime Video qui diffusent un épisode par semaine, on a beaucoup moins ces séries de 24 épisodes. Est-ce que les épisodes de Noël, du coup, sont un peu voués à disparaître avec ce genre de diffusion, Marion? Est-ce qu'on en voit moins aujourd'hui? On a quand même l'impression que c'est plus trop la norme.
Dans les contenus de plateformes de streaming, on n'en a quasiment plus. Ou alors, il faut que la série, en fait, sorte au moment de Noël. Et encore, ça devient très rare. Maintenant, ce qu'on va avoir, c'est des contenus entièrement Noël. Des séries où toute la saison va se dérouler à la période de Noël. Je pense, par exemple, à Home for Christmas, une série norvégienne qu'il y a sur Netflix. Mm-hmm. Ou alors, on avait vu aussi avec la série Dash and Lily qui est sur Netflix aussi, Hawkeye qui est sur Disney+, c'est pareil.
Ouais, Marvel a fait sa propre série de Noël quelque part.
Oui, en fait, tout se passe à la période de Noël. Et il y a plus 7 épisodes, mais du coup, une dizaine, 8-10 épisodes entièrement dédiés à la fête.
L'idée que cette ambiance, finalement, elle se remet, mais tout d'un coup...
Arrive quand même. Ouais. Ça arrive qu'on ait des épisodes de Noël.
Encore,
mais en fait, souvent, ils sont là pour patienter jusqu'à la saison suivante. Ils ont perdu ce côté, on est au milieu de la saison et on patiente jusqu'au bout. Et ils ne sont pas, d'ailleurs, toujours en mode chocolat chaud, neige et sapin décoré.
Il y a des contre-épisodes de Noël.
Alors, il y a des contre-épisodes de Noël, ça, on pourra y revenir. Mais on a aussi des épisodes qui sont diffusés à Noël, qui sont des parenthèses. Je pense à la série Euphoria, par exemple. On ne peut pas dire que l'ambiance des deux épisodes d'Euphoria délivrés pendant les fêtes soit vraiment une ambiance de Noël. Mais on avait retrouvé ce côté un peu interlude pendant les fêtes. Donc ça arrive encore, mais soit ce sont des épisodes, si on pense à Downton Abbey, par exemple, elle a fait son final à Noël. Donc vraiment, l'épisode final était un épisode de Noël. Soit on a des épisodes tout seuls qui sortent pour patienter jusqu'à la saison suivante. Donc c'est plus rare.
Il y a une petite astuce pas chère aussi par ailleurs, puisque les scénarios de Noël ne sont pas forcément les plus originaux ou les plus compliqués à écrire. Ceux de Euphoria, par exemple, qui certes n'étaient pas des épisodes de Noël à proprement parler. Si je me souviens bien, il y en a un qui était entièrement tourné dans un café.
Oui,
donc
c'est
on ne déploie pas des moyens.
C'était une période de Covid aussi, donc le tournage était un peu...
Ils ont fait deux en un là-dessus, mais c'est vrai que ça nous permet de patienter, parce qu'effectivement, traditionnellement, Noël est une période un peu de pause aussi. Il faut bien que les séries se reposent, hein, parfois. Les scénaristes et les acteurs aussi ont le droit de prendre du repos. Je le disais un peu en intro, on a commencé à l'évoquer, effectivement, malgré tout, les plateformes de streaming ne peuvent pas se passer de Noël. Noël, on le dit, c'est un temps fort de consommation malgré tout. On est en famille, on est entre amis parfois, on est en vacances, donc on a du temps, et forcément, on le passe dessus. Tu l'as évoqué, Marion, il y a eu par exemple Hawkeye, qui a cette série qui a été diffusée du côté de Marvel, dans un esprit évidemment super-héroïque, mais à Noël. Là, cette année, par exemple, on peut aussi citer le Anna Waddingham Home for Christmas, donc c'est un sur Apple TV+. Là, pour le coup, c'est un spectacle avec une partie du casting de Ted Lasso, donc une des séries phares d'Apple TV. Et là, pour le coup, on y va à fond sur la magie de Noël, quoi. C'est kitschissime. C'est ça aussi, peut-être, que les plateformes investissent des spectacles, des one-shots, des trucs plus événementiels, en fait, peut-être, quelque part, non?
Oui, et comme le disait très bien Marion, entièrement dédié à Noël. Donc là, pour le coup, on ne fait pas une pause. On inscrit toute l'intrigue ou le spectacle, en l'occurrence, pour l'exemple d'Apple TV, dans la période de Noël. Et en réalité, à la fois, il y a moins d'épisodes de Noël de séries, et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant submergé par des contenus de Noël que depuis que les plateformes...
C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des épisodes ou des séries, mais les plateformes, c'est aussi des films, on en parle un peu moins, mais... Et là, pour le coup, c'est du téléfilm à foison. C'est-à-dire que là, Netflix nous inonde de téléfilms de tous les pays.
Sur toutes les plateformes, tu as ton petit encart Noël, où tu cliques dessus et ils t'ont regroupé tous les contenus de Noël que tu vas vouloir regarder, du téléfilm le plus kitsch possible à la dernière série un peu plus peut-être travaillée, je dirais, pour fêter Noël, quoi. C'est vraiment... il y a les films aussi, comme tu le disais, les films qui, tous les ans, chaque plateforme a plus ou moins son petit film de Noël qui est produit et qui sort. Et ensuite, il y a une tonne de contenu pour ne pas quitter Noël de octobre à limite mi-janvier, je pense.
Oui, on le voit, après une vidéo qui a produit un film français, là, par exemple de Noël avec Eric Judor. Voilà, chaque année, il y a sa petite production. Il rachète aussi, hein, c'est aussi la force par exemple, de Netflix ou de Prime Video, d'aller puiser dans des catalogues télé étrangers pour vendre des droits de diffusion en France. Donc on va avoir des films de Noël allemands, suédois,
espagnols,
espagnol, que sais-je. Et c'est des films que peut-être, s'ils ne parlaient pas de Noël, on ne les regarderait jamais, parce que ce n'est pas forcément des bons films, il faut être très honnête là-dessus. C'est des films un peu kitsch, mais est-ce qu'on les regarde parce que c'est Noël? Est-ce qu'on assume ce côté kitsch de Noël, finalement, qu'on n'assume pas le reste de l'année, tout simplement?
Bah, je pense que c'est même un cercle vicieux, si vous voulez mon avis, qui est qu'on anticipe que les gens vont juste vouloir une sorte d'ambiance. Le scénario a assez peu d'intérêt. On pourrait limite faire un texte à trous, une jeune personne, homme ou femme, généralement une femme, qui revient dans sa petite ville alors qu'elle a fait des études dans une grande ville. Et là, elle rencontre son amour de jeunesse qui l'a jamais oublié. Et puis, en fait, ça colle pas. Et puis, à la fin, évidemment, ça collera puisque ça reste.
Évidemment.
Donc, c'est au niveau scénaristique, c'est souvent pas très recherché. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est un cercle vicieux parce que ce sont des films qui coûtent pas très cher à faire quand vous n'embauchez pas les meilleurs scénaristes d'Hollywood.
Oui, et qui par ailleurs n'ont pas des stars.
Vous n'avez pas forcément de stars. Ou alors maintenant, c'est assez intéressant, je trouve, ça devient le lieu de comeback.
Les stars sur le retour.
Ouais. Ben, il me semble que c'est Lindsay Lohan qui était revenue comme ça sur Netflix avec un film de Noël. Et puis, vous diffusez quelque chose qui va enrichir votre catalogue à cette période de l'année, qui sera sûrement très regardé. Alors, les plateformes ne sont pas du tout transparentes sur leurs audiences, mais on sait qu'à la télévision, ça cartonne, donc il n'y a pas de raison.
Oui, chaque année, Maman, voilà. J'ai raté l'avion, on repasse 14 fois, et les 14 fois, il y a des millions de personnes qui le regardent. Ça.
Exactement, non seulement ça, mais même les téléfilms bas de gamme font des scores d'audience assez incroyables l'après-midi. Ce qui est un petit peu étonnant, mais donc voilà, donc ça fonctionne, donc les plateformes le font, et effectivement elles savent qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'y mettre des moyens dingues et que ce sera quand même regardé.
Et tout ça rentable, hein. Je pense aussi, tu parlais des stars sur le retour, on peut citer aussi les Chroniques de Noël, par exemple avec Kurt Russell qui a fait pour le coup un beau carton, je crois, sur Netflix. Il y a eu une suite, enfin voilà, après il y a les chansons, c'est devenu tout un truc. Kurt Russell qui n'était pas forcément à ce moment-là, qui revenait un peu de chez Tarantino, mais c'était pas, voilà, Kurt Russell n'est plus la star qu'il a été dans les années 80. Mais il est très bon en Père Noël, il faut le signaler, c'est un film qui est très drôle, je vous le recommande d'ailleurs si vous cherchez un film de Noël, c'est sur Netflix. Tous ces téléfilms, toutes ces séries de Noël, etc., un peu kitsch, pas forcément très bien joué, c'est une industrie en fait quelque part, c'est un genre entier qui est nourri par Hollywood aujourd'hui et par les industries de tous les pays quelque part. C'est, il y a de l'argent derrière aussi, faut pas l'oublier quoi.
Ah oui, bah et en fait aux États-Unis il y a une chaîne principale, mais on va dire deux, qui passent leur temps à produire des téléfilms de Noël, donc Hallmark Channel et Lifetime. Et en fait c'est toute l'année, ils tournent des téléfilms de Noël. D'ailleurs, si on les regarde, on voit bien que c'est pas de la vraie neige. Hein. Donc, c'est tourné à Los Angeles.
C'est pas de la vraie neige dans
d'ailleurs,
les films hollywoodiens.
Souvent, le gros budget de ces petites productions, c'est la fausse neige.
Ah oui, ça.
Et donc oui, c'est toute une industrie parce que si on regarde la production de téléfilms de Noël de Hallmark, par exemple, et ben on voit que depuis les années 2000, ça augmente de façon exponentielle chaque année. Donc c'est bien la preuve que c'est rentable et que ça fonctionne, parce qu'ils en produisent de plus en plus. Et ils sont diffusés de plus en plus tôt à la télévision.
Oui, c'est chaque année, on grappille quelques jours. Pour commencer, bientôt, on commencera avant même Halloween, peut-être.
Oui, on se passera en septembre. Oui. Comme Mariah Carey, ça revient.
Voilà.
À peine Halloween est passé, hop.
Est-ce que c'est Mariah Carey qui donne le coup d'envoi des séries de Noël? Il faudra qu'on vérifie ça dans les dates. Là, on a parlé de ce qui fait les bons ou les pas bons, mais assumés, téléfilms et séries de Noël. On l'a un peu évoqué, je l'ai dit tout à l'heure, un peu en teasing. Il y a aussi des séries qui prennent parfois le contre-pied de se dire moi, je ne suis pas une série drôle. Je ne vais pas faire un épisode de Noël pour faire un épisode de Noël. Et j'assume ce contre-pied, Margot, de dire je vais rester dans mon ton, parfois très sombre, et de faire des contre-épisodes de Noël, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Quoi.
Oui, exactement. Et en fait, en gros, on reprend juste la neige, le froid.
Ça, par contre, on n'y coupe pas.
Vous n'aurez pas de Père Noël. Et surtout, Alors, c'est dans l'esprit de la série, mais je pense qu'il y a aussi la volonté de subvertir un genre. On a beaucoup parlé de l'ambiance de ces films et tout ça, mais il y a aussi un genre dans le propos qui est souvent assez traditionnel. On exalte vraiment la famille traditionnelle, les valeurs qui sont les bonnes valeurs, où on a des personnages qui vraiment retrouvent le sens du partage, le sens du consensus, se rapprocher des gens auxquels on n'avait pas parlé et auxquels on faisait la gueule depuis des années pour pas grand-chose. Donc, on a, en fait, les films de Noël, sous leur aspect très léger, sont un petit peu politiques là-dessus, dans le sens où ils nous montrent une vision très, très traditionnelle de la famille, de ce que doit être la vie, l'existence, l'amour, le couple. Et on voit que les séries arrivent aussi à venir subvertir un peu ça et dire, bon, on n'est pas obligé de tous s'aimer et finir ensemble à Noël.
Il peut aussi y avoir des tragic ends dans les épisodes de Noël.
Exactement.
Et voilà, c'est aussi la marque de certains. Il y a un exercice de style aussi peut-être pour les auteurs, les scénaristes à Hollywood, de se dire, tiens, j'ai peut-être fait un épisode de Noël, mais je suis aussi capable de pervertir, de subvertir l'esprit de Noël dans un autre épisode. Et ça fait souvent des épisodes d'ailleurs assez marquants, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à Noël. On va terminer ce débat, je ne pouvais pas y couper. Il va falloir donner vos épisodes de Noël préférés dans les séries. Voilà. Qui veut se lancer la première ? Marion, peut-être ?
D'accord. Allez. Alors, mon épisode préféré, c'est pas facile de choisir, mais c'est Abed's Uncontrollable Christmas dans Community.
Ok. Donc drôle, plutôt, puisque c'est Community.
Alors... C'est Community, donc c'est jamais simple. C'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est tragique en même temps. Enfin, c'est pas tragique, mais c'est très mélancolique.
D'accord, ok.
En fait, c'est un épisode, bon, comme beaucoup d'épisodes de Community, qui va s'imprégner de beaucoup de choses de la pop culture. Donc, on va vraiment retrouver beaucoup d'éléments. Et la plupart de l'épisode se déroule en stop motion façon animation. Donc, ça, c'est très Noël, pour le coup. Et en plus, ils se transforment en petits personnages qui sont des petits jouets de Noël. Et en fait, pendant tout cet épisode, Abed va chercher le sens de Noël. Et je ne sais pas si je spoil, mais...
Attention, spoiler, si vous n'avez pas vu cet épisode et que vous comptez le voir, bouchez-vous les oreilles pendant les 30 prochaines secondes.
En fait, c'est Abed qui se met à imaginer tous ses copains et lui en version animée, parce qu'en fait, il est triste, parce que tous les ans, sa maman vient le voir à Noël, et cette année, parce que ses parents sont séparés, cette année, elle ne vient pas, donc elle lui a écrit une petite carte pour lui dire qu'elle fête Noël avec son nouveau compagnon et son nouveau bébé, et qu'elle ne viendra pas. Et donc,
d'accord,
en fait, c'est
oui,
pour ça... qu'il est, il a le cœur brisé parce qu'il ne verra pas sa maman et qu'elle a une nouvelle famille. Et donc, il cherche le sens de Noël. Et... voilà, donc c'est drôle. Et à la fin, on sort les mouchoirs.
D'accord. Un très beau choix. Quand même, un épisode touchant. On a besoin de ça aussi. Margot ?
Et alors, moi, je parlais justement des séries qui font des contre-épisodes de Noël. Et ce sont mes préférés. Et donc, mon préféré, c'est Black Mirror, White Christmas, qui est un épisode assez long, qui contient deux histoires en une, et c'est du pur Black Mirror, donc on ne fêtera pas la magie de Noël.
Non, de mémoire, ce n'est pas très très drôle.
Non, voilà.
C'est avec John Hamm, il me semble,
l'acteur de Mad Men. Et en gros, c'est deux hommes qui sont dans un chalet, et il fait froid dehors, et il neige. Et c'est à peu près le seul chose
Noël.
Un peu Noël, c'est là que s'arrête Noël. Et en fait, en réalité, au bout d'un moment, on comprend qu'ils sont dans une réalité un peu parallèle et l'un des deux essaye de faire avouer un crime à l'autre. Alors évidemment, il y aura l'implication de nouvelles technologies absolument terrifiantes. Ça finit évidemment très très mal. Et oui, je suis désolée, je casse un peu l'ambiance de Noël. Mais
moi j'adore
j'aime
ces épisodes-là
ça.
Aussi. Donc je soutiens cette initiative de regarder des contenus qui subvertissent les films.
Voilà.
Moi, je vais vous donner le mien aussi au passage. C'est l'épisode spécial de Sense8, la série de Netflix, qui pour le coup servait de transition entre deux saisons. L'attente était un petit peu longue. Donc c'est plus qu'un Christmas special, c'est un New Year special. Ça dure plus d'une heure et demie. Voilà, c'est pareil. Il y a un peu les deux. On rejoint les deux esprits. Il y a à la fois le côté très Noël, très cheesy, très kitsch. Et toutes les thématiques de Sense8 qui subvertissent l'esprit et les valeurs morales de la famille traditionnelle américaine qui sont dans cet épisode. Moi j'adore cet épisode, je vous le recommande. Ça vous fait des choses à regarder. Puis si jamais vous voulez regarder l'épisode des Simpsons habituel, l'épisode de Friends, libre à vous, c'est Noël. On est là pour ça. Évidemment qu'on a nos plaisirs coupables chaque année pour cette période. Et pour ceux qui, malgré tout, n'en peuvent plus des cannes à sucre, des Pères Noël rougeaux, des sapins avec plus de déco que de branches, un peu comme celui qu'on a là, on a aussi de quoi faire, je vous rassure, et on va passer aux séries de la semaine. Deux séries donc cette semaine, et pour commencer, un coup de gueule. Tiens, ça ne nous arrive pas souvent, mais Margot avait envie de se payer la fin de The Crown. Voilà, on va le dire tout simplement, la série royale de Netflix qui vient de se terminer. Là, c'était la deuxième partie qui était dévoilée. On a parlé de la première partie dans une émission spéciale en novembre. Là, la deuxième, il y a donc 6 épisodes qui restaient, est sortie. On a donc la fin de cette série un peu mythique quand même pour Netflix. Et Margot, on peut dire que la dernière saison t'a déçu.
Oui. Oui, oui, complètement. Je suis désolée, je continue. Ce sera l'émission des coups de gueule pour moi.
Il faut dire les termes.
Mais non, je suis extrêmement déçue de cette série. Donc, la première partie était sur la mort de Diana et comment la monarchie britannique allait s'en remettre. Et la deuxième partie, c'est donc la suite. Et en fait, on va suivre un peu... un crépuscule, mais qui n'en est pas un, parce qu'en réalité, on sait très bien que...
Oui, la série, on peut dire, c'est pas un spoiler, la série s'arrête en 2005, voilà. Le mariage de Charles et de Camilla Parker Bowles, mais il n'y aura pas de suite, et on ne verra donc pas la fin du règne d'Elisabeth II.
Voilà, exactement, et surtout le début de l'idylle entre William et Kate Middleton. Et je suis assez affligée par ce que je vois, je suis désolée de le dire. Jusqu'ici, l'intérêt de The Crown, c'était quand même déjà de parler de la monarchie par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire plus rentrer dans l'intimité de personnages que tout le monde connaît, en révélant pas forcément des choses qu'on ne sait pas, mais...
En mettant en scène
une intimité à laquelle on n'a pas accès, qui est forcément un petit peu fictionnalisée, mais ça, c'est, pour moi, ça n'est absolument pas gênant. Mmh. Et puis, garder en toile de fond la grande histoire, celle de la Grande-Bretagne, mais aussi celle du monde entier, puisque on a quand même...
Via la politique, les premiers ministres notamment.
Exactement. Donc, on avait toujours cette toile de fond assez intéressante. Donc, toujours de la politique, toujours de l'intime. Et alors là, j'ai trouvé ça, mais particulièrement neuneux, je suis désolée de le dire. Et je ne sais pas si c'est parce que la période est trop proche de nous, mais en fait, je me suis complètement désintéressée de ces personnages. On voit très peu la reine Elisabeth.
La deuxième partie de la dernière saison, on va dire, est très centrée sur un peu Charles et Camilla.
Voilà,
et beaucoup
Kate
William,
et William. Et là, ça ressemble à un teen drama, comme on en a vu des dizaines, qui a un intérêt extrêmement limité. Et pourtant, c'est une histoire que je connais pas forcément parce que je sais pas comment ils se sont rencontrés. Mais je réalise que je m'en fous. Et ça, c'est un peu gênant. C'est vrai qu'ils sont assez loin du pouvoir. Donc, la question du pouvoir est trop lointaine pour que ça nous intéresse. Ou alors, elle devient très artificielle. Et surtout, je trouve que la série passe complètement à côté de ce qui, moi, m'aurait intéressé. À savoir, par exemple, la relation de William et Harry, son frère. Quand on sait comment ça s'est terminé, pas le sang, mais beaucoup de larmes,
beaucoup
on l'imagine,
larmes, ouais. À la télé.
On se dit, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est une trop grande déférence vis-à-vis de la couronne, mais en tout cas, le personnage d'Harry n'existe quasiment pas.
Oui, et la fin de saison est très sage, je te rejoins là-dessus, notamment sur l'épisode qui est un peu connu de la soirée déguisée à la fac
où
Harry
portait un
uniforme nazi. C'est évoqué, mais... on a l'impression qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts par papa. Il y a une engueulade pendant un déjeuner.
C'est tout.
Et on passe à autre chose, quoi.
Voilà. Et puis, c'est un peu le bad boy de la famille, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de bienveillance à son égard. Ce qui fait qu'il est absolument impossible de lire dans la série, en tout cas, les prémices de ce qui va se passer plus tard. Il y a quand même de bonnes idées. Je trouve que l'idée de mettre la reine face à sa propre mort... Alors, on ne va pas la montrer mourir. Mm-hmm. De fait, elle va mourir plus de 10 ans plus tard, mais on la montre en train de régler les détails de son enterrement. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc, il y a encore ces fulgurances très The Crown, justement, mais extrêmement déçue par cette fin. Et j'ai envie de dire que c'est un peu, pour moi, une métaphore de l'année de Netflix. Netflix qui a de moins en moins de grandes séries et qui est un peu en train de perdre en qualité.
On s'était posé justement, effectivement, la question de savoir, après The Crown, quid de Netflix, qui manque un peu peut-être de séries phares. En tout cas, un avis qui va diviser. The Crown, c'est fini. Mais pour vous faire peut-être à l'avis de Margot ou à un autre, c'est à voir sur Netflix, c'est 6 saisons. Et donc, la dernière est sortie. On va terminer sur une note plus positive quand même, c'est Noël. Un peu d'optimisme et de joie. Marion, toi, tu voulais nous recommander de regarder une série qui t'a plu. Ça s'appelle The Buccaneers.
Oui, tout à fait. On reste dans les drames historiques, mais on est très très loin de The Crown parce qu'on ne va pas regarder The Buccaneers pour l'histoire. Hein. Alors, du coup, The Buccaneers, c'est sur Apple TV. Mm-hmm. C'est une série qui est inspirée d'un roman inachevé de Edith Wharton. Et ça se déroule entre New York et Londres dans les années 1870. On y suit principalement cinq héroïnes qui sont assez... c'est vraiment le cœur de la série. C'est des personnages rafraîchissants, effrontés. Elles sont pas... On est loin un peu des... Parce qu'on la compare beaucoup à Bridgerton.
Oui, ce que j'ai l'air est... costumé, forcément.
Oui, voilà, pense, c'est mais... une des romances costumées, etc. Mais je trouve que The Buccaneers est plus moderne. Une lecture plus moderne des personnages féminins, notamment, parce qu'elles ne rentrent pas dans les codes. Peut-être parce que c'est des Américains. Dans Bridgerton, c'est des Anglaises, pardon. Donc, parce que c'est des Américaines et donc elles viennent, elles sont là pour un peu justement chamailler, je ne sais pas le mot qui convient, mais pour...
chahuter peut-être les traditions.
Oui, voilà, donner un coup de pied dans la ruche qui est la tradition de la noblesse anglaise. Et donc, on assiste à ce choc des cultures vraiment entre les Américaines et les Anglaises. On suit les histoires d'amour, mais avant tout, si elle est beaucoup tablée comme une série romantique, c'est avant tout une histoire d'amitié entre ces cinq jeunes filles. Et on explore à la fois comment cette amitié peut être destructrice, mais aussi comment elle peut les aider à surmonter les tracas de la jeunesse quand on vit en 1870 et qu'on doit épouser un homme obligatoirement. D'ailleurs, la série, je le disais, elle est assez moderne dans le sens... où on le verra, enfin vous le verrez si vous regardez la série avec les musiques qui sont utilisées, c'est très pop.
D'accord, ok.
Là, ça fait penser à Bridgerton une fois encore. Mais aussi parce que ça explore des thématiques qui peuvent parler même encore aujourd'hui, parce que la série montre notamment un couple lesbien. Et ça, par exemple, Bridgerton ne le met pas du tout en avant. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de très intéressant de se retrouver face à ces adolescentes qui sont finalement dans un amour vraiment impossible pour l'époque. Et on parle aussi de violence, on parle de violence conjugale, je voulais dire, pardon. Et tout ça s'est montré en dessous de tout ce qui est plumes, paillettes et balles costumées. Donc c'est vraiment une série pétillante, mais pas que.
Mais très moderne, oui. Donc sur son propos. Et ben ça donne envie de la regarder. En plus, ça tombe bien, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. The Buccaneers a été renouvelé pour une deuxième saison sur Apple TV+, toujours. Donc, c'est le moment de vous lancer. Comme ça, vous pourrez regarder la saison 2 l'année prochaine, normalement. C'est déjà la fin de cette émission spéciale Noël. Merci Margot, merci Marion.
Merci beaucoup.
D'être venu partager vos coups de cœur et vos avis parfois subversifs sur les émissions et sur les séries de Noël. Vous pouvez revoir cette émission en replay, bien sûr, sur le site de Tech & Co et en podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous dis, moi, à la semaine prochaine.